19h18, c'est le moment de parler sport business avec Ray Lalonde qui est avec nous au studio. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Ray, écoute, parlons du dossier des sénateurs d'Ottawa. On le sait, pas facile de vendre des billets. Par moment, le succès sur la patinoire, c'est difficile. Et là, ben, on miroitait le projet d'un nouvel amphithéâtre. Mais attention, il y a des enjeux importants qui s'en viennent dans les prochaines semaines.
Oui. Ben, la plus récente nouvelle, Jérémy, c'est le fait que lorsque le dossier des Plaines-le-Breton par la commission de la Capitale-Nationale a été accordé au groupe des sénateurs et du Trinity Group, ben, eux, ils avaient le mandat de l'exploiter. Mais à l'intérieur même de ce groupe-là, ils chicanent ensemble. Fait que finalement, il y a de la dispute puis de la bisbille entre Melnick et les sénateurs et les gens du groupe Trinity qui ont le mandat conjointement de développer ce dossier-là pour éventuellement présenter un projet d'aréna qui serait construit au centre-ville, qui permettrait aux sénateurs de se rapprocher. Alors là, le dossier, c'est que on arrive à échéance, puis la commission de la Capitale-Nationale regarde ces deux gars-là chicaner constamment, puis ils ne savent plus si on doit recommencer ou non le processus.
OK, juste pour résumer que les gens comprennent bien, c'est-à-dire la commission de la Capitale-Nationale a des terrains, a dit à un groupe, vous avez la possibilité d'exploiter ce terrain-là. Oui. Là, la commission de la Capitale-Nationale dit au groupe, si d'ici le mois de janvier, vous commencez pas le principe. Nous, on va libérer cet espace-là.
Et on recommence ce processus.
Pour quelqu'un d'autre.
Oui. Pour quelqu'un d'autre, soit pour un amphithéâtre, complexe sportif pour les sénateurs, ou pour autre chose. N'oublie pas là, qu'à un moment donné, tu vas manquer de terrain. C'est comme le principe d'avoir des terrains disponibles pour un stade de baseball à Montréal. Si la construction d'immobilier continue de plus belle, à un moment donné, il va manquer d'espace. Il faut que ces choses-là, à un moment donné, prennent leur place et s'exécutent. Bon. Alors, ça se rajoute à une longue liste de problèmes des sénateurs internes. Je pense au dossier du directeur gérant adjoint Randy Lee. Je pense au dossier là, de congédiement départ rapide de Cyril Leader comme président. Ensuite, Tom Anselmi qui a fait un an comme président. Je pense au fait que les sénateurs perdent des employés cadres depuis 2-3 ans déjà, ne les remplacent pas. Je pense au fait qu'il y a eu la chicane avec Mike Hoffman puis Eric Carlson puis leur conjointe. Puis là, éventuellement, ils ont échangé Hoffman, mais ils ont échangé Carlson aussi. Puis là, les rumeurs, c'est que Carlson prenait beaucoup de place. C'était difficile pour Guy Boucher d'opérer. Toutes sortes de spéculations, mais finalement, c'est jamais stable à l'intérieur de cette équipe-là.
Et que dire du Ubergate qui est arrivé en
récemment.
Plus. Et d'ailleurs, les sénateurs ont échangé Chris Weidman aux Oilers d'Edmonton. Ça s'est fait aujourd'hui.
Exactement.
Il était dans le
Il
taxi.
Il était dans le taxi, dans l'Uber. Exact. Alors, ce que je veux dire, Jérémy, c'est que c'est une équipe qui, moi, je trouve personnellement que sur la glace, ça va être beau dans quelques années parce qu'ils ont beaucoup de beaux prospects, comme les Canadiens d'ailleurs. Ouais. Alors, ce sont des équipes qui se bâtissent correctement. Je questionne pas le côté hockey. Je questionne l'inertie à l'intérieur de l'organisation de s'équiper d'un regroupement d'administrateurs modernes et de faire concurrence au reste de la Ligue nationale et du marché, donc les exigences. Mais pourquoi ça se fait pas? Monsieur Melnick choisit de ne pas remplacer tous ces importants individus-là. Peut-être c'est un manque de fonds. Peut-être que c'est un manque de certitude sur son avenir. La conclusion pour les sénateurs, selon moi, c'est que Monsieur Melnick veut éventuellement se départir de cette équipe-là. Ça, c'est mon opinion en passant. Là, c'est pas l'opinion de personne. Mais je pense que tant et aussi longtemps que le dossier d'Arena n'est pas réglé, Jérémy, il y a tout à perdre de laisser partir ça tout de suite. Mettons que ça se réglerait, puis il pourrait bâtir son aréna au centre-ville d'Ottawa, augmenter l'intérêt, le rayonnement des sénateurs. Bien là, son équipe vaudrait plus cher pour éventuellement revendre. C'est mon opinion seulement, mais je pense que c'est comme ça qu'il doit penser. Les sénateurs, aujourd'hui, sont dans une mauvaise position, dans un aréna qui est trop loin, mais on sait pourquoi ils sont là. C'est parce qu'en 1992, quand ils ont mis cette équipe-là là-bas, c'était pas cher le terrain à l'époque pour bâtir un amphithéâtre, puis ils l'ont pris, cette option-là. Aujourd'hui, ils regrettent un peu de ne pas être au centre-ville. Mais les municipalités et les paliers gouvernementaux ne peuvent pas juste payer pour des arénas parce que les équipes ne sont pas contentes d'où ils sont situés. Il faut que tu subisses les conséquences ou que tu vives avec. Les sénateurs doivent travailler plus fort pour se structurer, se solidifier comme équipe avant même de penser à la construction d'un amphithéâtre nouveau.
Mmh. Eugene Melnick, tout un personnage, ça c'est clair, net et précis. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler des congédiements en début de saison. On a vu dernièrement l'entraîneur des Oilers d'Edmonton qui a été congédié. C'est Ken Hitchcock qui est arrivé là. Et veut pas, on veut lancer quand même un signal aux partisans. Quand tu bouges rapidement en début d'année, c'est que tu veux garder ton partisan avec de l'espoir.
Oui, t'as raison là-dessus, Jérémy. Tu veux pas ne pas être dans la course et de laisser filer entre tes doigts l'occasion de te reprendre avec les 60 matchs qui restent. Alors, concluons là que c'est généralement pour ça que les propriétaires et les présidents prennent des décisions de se départir ou non d'un entraîneur. Bon, Cependant, comment qu'on évalue un entraîneur, Jérémy? On pense toujours aux victoires-défaites. Mais c'est plus que des victoires des défaites. On sait qu'un entraîneur est quasiment embauché le jour qu'il est embauché pour se faire dire qu'il va être éventuellement congédié. C'est rare, les postes comme ça, parce qu'on ne peut pas espérer vivre longtemps comme entraîneur dans une place. C'est rare, les gars qui font des longues années. Pourquoi? Facile de se départir d'un entraîneur plutôt que plusieurs joueurs. Et les entraîneurs sont comme faits pour être un peu les victimes dans cette histoire-là. Parfois, ils perdent leur touche, mais regarde les équipes qui ont congédié des entraîneurs. Les quatre sont en conférence de l'Ouest. Les Kings et les Blackhawks sont deux équipes qui ont gagné de multiples Coupes Stanley depuis une douzaine d'années. C'est pas des équipes qui n'ont pas eu de succès. Mais regarde les deux autres, des équipes qui déçoivent constamment. Les Blues de Saint-Louis et les Oilers d'Edmonton, entre autres. Alors, finalement, il n'y a pas de recette qui dit pourquoi là, il serait congédié, pourquoi pas. Kenville, on peut pas dire que c'est pas un excellent entraîneur, Jérémy, tu le sais. Peut-être que son message ne passait plus bien avec les Blackhawks. Peut-être que les Blackhawks se sont menottés avec des contrats farabuleux à Taze puis Patrick Kane. Puis là, ils ont trop dépensé, puis là, il reste plus les sous pour rebâtir. La Ligue nationale, ça change rapidement. Canadiens, on n'aurait pas cru qu'il y aurait eu de l'espoir cette année, puis regarde l'équipe qui est compétitive cette année. Pourquoi? On rebâtit, on le dit pas toujours, mais on rebâtit quand même. On investit
on
chez des jeunes.
On fait un reset.
Ouais, reset, reboot, appelle-le ce que tu veux. Mais une chose qui est claire, moi, je le vois comme une reconstruction, ouais. Un virage jeunesse. On investit dans le talent puis la vitesse. Puis là, on va leur donner de l'expérience au fil du temps. Les équipes, à mon avis, doivent toujours se dire, si c'est si important que ça, on doit faire le changement tout de suite parce que les séries sont en jeu. Certaines équipes ne pensent pas long, court terme pour les séries, pensent plutôt long terme, sont plus patients. D'autres se disent, on peut sauver les séries. Jérémy, une ronde de séries, 2-3 matchs à domicile, 2-3 millions par match minimum. C'est payant, là. C'est important de faire une ronde de séries. C'est encore plus important si on peut en faire deux, mais t'en feras pas deux si t'en fais pas une. Alors, donc, le sommaire de ça, cette décision-là, concernant les coachs, c'est qu'il y a des années comme l'an dernier, il y a eu zéro de limogé en pleine saison. Puis cette année, on est déjà rendu à 4 au quart de la saison. Mais ultimement, je pense que là, ça va se stabiliser. Il y a peu d'équipes que je regarde là, de façon objective qui vont se dire « Ah, c'est le coach qui est coupable de ça. »
Pense pas les Pingouins?
Non. Ben, pas les Pingouins parce qu'ils ont eu un de mauvais début, puis Crosby a raté des games, puis leur gardien est encore blessé quand ils ont gagné deux des trois dernières Coupes Stanley. Mm-hmm. Puis Dieu sait que si c'était pas les Capitals l'an dernier, ça aurait probablement été les Pingouins aussi. Difficile de dire que Sullivan a perdu sa chambre, a perdu la façon d'agir, puis qu'il n'est pas un bon coach. Ça serait, à mon avis, une erreur tout de suite de paniquer chez les Pingouins de Pittsburgh. Il est encore tôt dans la saison.
Parlons maintenant d'un duel qui aura lieu demain du côté de Vegas. 24,95 $ sur Indigo. Si vous avez le goût de voir The Match entre Phil Mickelson et Tiger Woods, $9 millions à l'enjeu. Honnêtement, je suis un fan de golf et c'est quelque chose que j'aurais le goût de voir. Malheureusement, je vais regarder le match du Canadien, mais j'aurais le goût de voir ça parce que on veut voir comment ça se passe dans une ronde de golf parce que j'imagine qu'on va avoir accès à une multitude de choses sur le terrain avec les deux joueurs. Là.
C'est un événement, comme on appelle en anglais, si tu me permets l'expression, made for TV. Alors, évidemment, pay-per-view à la carte, mais c'est made for TV. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de spectateurs qui vont avoir accès au match. Ce seront des amis, des commanditaires et des invités spéciaux VIP qui vont pouvoir être sur le terrain même pendant que Tiger et Phil jouent. Bon, regardons un peu pourquoi ça a lieu, ça. Probablement 10 ans, 15 ans trop tard, ne serait-ce que parce que les deux gars, même s'ils sont les deux plus grands noms en marketing de golf, sont certainement pas près de leur sommet en termes de performance sur le terrain de golf. Deuxièmement, il y a énormément d'enjeux. $9 millions. Mais je déplore le fait que c'est pas leur argent. C'est l'argent de Capital One, puis de AT&T, puis de Audi. Alors, c'est dommage que ces gars-là peuvent pas mettre leur propre bille sur la table et là, tu aurais un enjeu. L'autre chose que je déplore, parce que je suis pas trop favorable à cette idée-là de cette confrontation-là, pour les raisons que je t'énumère, l'autre, c'est que je trouve que on aurait dû dire, écoute, 9 millions, c'est bon, le commanditaire va le payer, puis on a 9 œuvres de charité chacun, puis nos 9 reçoivent $1 million. Parce que Dieu sait que Tiger Woods puis Phil Mickelson n'ont pas besoin d'argent. Les gains en carrière de Tiger Woods sur le terrain, c'est minime, mais commercial, c'est beaucoup, $1.4 milliard. Phil Mickelson est rendu à $650 million de valeur. Ça, c'est Phil Mickelson. C'est pas Tiger Woods. Dieu sait qu'ils n'ont pas besoin de 9 millions. Jérémy, c'est comme si toi puis moi, on misait $20 sur la game canadien sable demain, là. $20 pour nous, c'est 9 millions pour eux. Mais c'est même pas leur argent. Ils en ont pas besoin de cet argent-là. Pourquoi ils font pas un geste vrai? Ils pourraient donner ça aux pompiers en Californie, mm-hmm. Aux victimes qui ont perdu leur maison en Californie. Imagine ce que tu aurais comme bienfaisance là, au niveau de la perception publique.
Pour donner un sens
ben oui,
à ça.
On dirait que c'est en anglais, excusez l'expression, cash grab. Mm. Tout le monde va se mettre les mains pour aller chercher le cash. OK. Ceci étant, tu regardes ce qu'il y a sur la programmation télé. Demain, là, tu as 3 matchs de la NBA en après-midi. Tu as 3, 4, 5 matchs de la NHL qui jouent un peu plus tôt. Tu as juste 2 gros matchs de football universitaire américain sur 4, là, 2 qui ont un enjeu. Tu n'as pas d'NFL. Fait que c'est effectivement un bon moment vendredi après-midi. Les Américains sont en congé. On récupère de la veille, c'est-à-dire ce soir. Et on regarde la télé en fin de semaine. Honnêtement, c'est toujours comme ça, les Américains. Donc, en termes de programmation puis d'horaire, c'est le bon moment de le faire. Puis tu as raison de dire que c'est bon un match-up de golf. Contrairement, par exemple, à un Mayweather-Pacquiao, où tu vois ces gars-là un peu boxer trop tard dans leur vie face à face, le golf va durer 3 heures. La boxe dure 45 minutes. Donc, il faut quand même savoir que les gens sont pas tous prêts non plus à sacrifier 3 heures de leur temps pour un match d'exhibition où les gars ont rien sur la table qui vient d'eux-mêmes.
J'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus ça, de ces shows de sport-là. J'appelle ça un show.
Ouais, c'est
vraiment
un
spectacle de sport.
C'est un show.
Et les gens veulent consommer ce genre d'événement-là, ouais. Ce spectacle en particulier. Et c'est ce qui fait que les gens accrochent. On va en avoir de plus en plus.
Ben Jérémy, tu sais, encore une fois, tu es d'accord avec moi que si on mettait Jordan Spieth contre Dustin Johnson ou Rory McIlroy contre Jason Day, le golf serait meilleur, mais c'est pas les mêmes personnalités, right? On est conscient que Tiger peut vendre ça puis les autres peuvent pas. Donc, on s'appuie beaucoup sur Tiger. Mais les shows de cette envergure-là qui sont un peu personnalisés, sur mesure, il va en avoir plus. La question, c'est demain, on va avoir une bonne idée de l'intérêt. Parce qu'un bon combat de boxe va avoir 1 million ou 2 d'achats pay-per-view. Un bon combat de UFC, comme Conor McGregor, par exemple, peut atteindre 1 million. Mais là, moi, à 20 $ comparé à 69, 89, 99 quand c'est le UFC ou la boxe, 20 $ c'est déjà abordable. Quel sera le résultat demain? Je suis pas certain que ça va aller chercher.
Moi non plus.
Non. Je pense qu'on va
moi,
être dans les
de
deux.
L'intérêt.
Oui, mais on est des fanatiques de sport, on consomme ça. Mais pour le fan occasionnel, Phil Mickelson disait cette semaine, ça va nous permettre de rayonner plus large. Pas certain, parce que c'est pas légitime comme confrontation. C'est artificiel un peu. Si tu disais qu'il y avait de l'argent en jeu, puis le gagnant gagne l'argent de l'autre, là, je te dirais, oh boy, là, les gens seraient curieux de voir qui gagnera cet événement-là.
Ray Lalonde, toujours un plaisir. Évidemment, on écoute tes capsules de focus sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy.
On s'arrête quelques instants au retour. Comment arranger ça, cette défensive-là, chez le Canadien de Montréal, qui est extrêmement poreuse par les temps qui courent? On en parle au retour avec Danny Dubé.